Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. On parle médias d'une part et politique culturelle d'autre part ce soir avec en première partie d'émission un long focus sur la presse, les médias notamment sur les Inrock mais aussi sur Radio Nova, le festival Rock en scène avec Emmanuel Hogg, mon invité ce soir, ancien patron de l'AFP, aujourd'hui en charge des médias du groupe de Mathieu Pigas et à ce titre Emmanuel Hogg est l'un des actionnaires du groupe Le Monde, c'est-à-dire donc en plus du quotidien du soir, Télérama, L'Obs, Courrier International ou encore Le Monde diplomatique. Bonsoir Emmanuel Hogg.
Bonsoir Frédéric Martel.
Pourquoi avoir choisi, comment dire, la vie rock, sinon même la vie punk, après l'AFP, avec les syndicats, la lourdeur, etc. C'est un peu partir sur la route, comment dire, pour l'aventure des médias contre-culturels ?
Ben, par plaisir et par envie. Quand j'ai quitté l'AFP il y a un an, la question était assez simple pour moi. Est-ce que je restais dans le secteur public ou semi-public ou parapublic, ou est-ce que j'allais tenter l'aventure dans le secteur privé, naturellement, et un dialogue s'est noué avec Mathieu Pigas, que je connais depuis 20 ans, donc qui est un ami, et l'idée de construire, renforcer, donner une cohérence à son groupe s'est imposé dans la discussion et donc j'ai rejoint la proposition qu'il m'a faite avec beaucoup de bonheur et de plaisir.
On vous retrouve dans quelques instants pour parler de tout ça. Seconde partie d'émission ce soir, je reçois Stéphane Martin. Il est encore pour quelques jours le président du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Il achèvera son dernier mandat fin décembre et il nous raconte ce soir l'aventure de ce musée des arts premiers. J'espère qu'il partagera d'ailleurs aussi avec nous sa vision des musées, ses idées sur la restitution des œuvres d'art ou encore son amour des voyages, tout ça avec la liberté de celui qui part et qui peut parler plus librement. Bonsoir Stéphane Martin.
Bonsoir Frédéric Martel.
Ça fait combien de temps au fond que vous dirigez le musée du Quai Branly Jacques Chirac? J'oserais dire sans exagérer, depuis toujours.
Non, ça fait 21 ans, donc mais j'en
comme
ai 63.
Oui, mais le musée il date de cette date-là, donc oui, pratiquement. Enfin, il n'a connu que vous, ce musée.
Le musée n'a connu que moi, mais moi, je n'ai pas connu que le musée.
J'espère ne pas connaître. 21 ans, c'est beaucoup.
21 ans, c'est long, oui, c'est beaucoup. C'est bien.
Bien. On reparle tout ça avec vous. On vous retrouve tout à l'heure en deuxième partie d'émission. On parlera également ce soir dans Soft Power du groupe saoudien des médias NBC. Et puis, bonsoir Zoé Sfez à mes côtés pour interroger
bonsoir,
nos invités, Emmanuel Hogg et Stéphane Martin.
Toujours, je suis là.
Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche. L'émission est réalisée ce soir par Véronique Villa avec en régie Jean-Guilain Meige. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify ainsi que sur Instagram, Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement à ce podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme. C'est parti. Alors pour commencer cette émission, je le disais il y a un instant, au croisement finalement des médias et du soft power, une actualité ce soir, d'ailleurs en exclusivité internationale même, la nomination d'un Français, Marc-Antoine Daluin, à la tête du plus important groupe média arabe. Alors vous ne l'avez lu nulle part, vous l'entendez ici pour la première fois, pourquoi et en quoi ça nous concerne? Alors on a parlé plusieurs fois dans cette émission du groupe NBC, qui est le leader dans la télévision et l'entertainment arabe. NBC, c'est une vingtaine de chaînes majeures comme NBC One, qui est très grand public, NBC 2, 3, 4, NBC Drama, NBC Masser, qui est en fait la grande chaîne d'Égypte, NBC Irak, en Irak donc, NBC Persia et surtout Al Arabiya, le principal concurrent d'Al Jazeera. Il y a aussi d'autres éléments dans ce groupe, des sites par exemple très consultés, l'un notamment qui s'appelle Shahid, qui est une sorte de Netflix arabe. Alors le groupe NBC réunit chaque jour de la semaine plusieurs dizaines, parfois des centaines de millions d'Arabes devant ces programmes de télévision, ces émissions, ces programmes par satellite, ces télévisions payantes, et tout ça du Maroc jusqu'au Liban, en passant par l'Arabie Saoudite, les Émirats, mais aussi l'Irak, l'Égypte ou donc encore la Jordanie. Le groupe appartient aux Saoudiens, il a connu de vives tensions, on s'en souvient, en novembre 2017. Il est basé à Dubaï et possède des studios un peu partout, des studios de production géants à la fois à Dubaï, mais aussi au Liban, en Arabie ou encore en Égypte. Ce groupe sera donc, à partir de janvier, c'est là l'information de Soft Power sur France Culture exclusive ce soir, dirigé par un Français, Marc-Antoine Daluin, un ex, alors il est passé par Sciences Po Paris, passé par le MBA d'Harvard, et qui va donc prendre les commandes de ce groupe à Dubaï à partir de janvier. Il a été aussi chez Sony Pictures, il a été patron de Zodiac Media et du groupe luxembourgeois M7, qui vient d'ailleurs d'être vendu à Canal+, sous l'égide de Vivendi. Marc-Antoine Daluin avait déjà dirigé le groupe de télévision payante Orbit, Showtime Network, basé à Dubaï. Ce qui est intéressant pour finir ici, pour cette émission, c'est donc l'arrivée à la tête du plus important groupe média arabe d'un Français, passé certes par les États-Unis, et qui va donc prendre la tête de ce groupe et a nécessairement reçu une sorte de green light, comme on dit, et en réalité même a dû être validée cette nomination par les Saoudiens et par conséquent indirectement par le prince Mohamed Ben Salman, le fameux MBS lui-même. Voilà pour cette information et sur laquelle on reviendra sans doute dans les semaines à venir. Dans Soft Power, Emmanuel Hogue, ancien patron de l'AFP, patron de plusieurs médias, on en parlera dans un instant. Peut-être une réaction, puisque vous êtes un homme des médias, sur ce type de situation.
D'abord, c'est les studios que vous évoquez, je les connais bien, parce que je les ai visités plusieurs fois à Dubaï. J'étais aussi dans le groupe à Riyad. Et d'abord, c'est une bonne nouvelle, parce que si on est français, de considérer que effectivement les talents français s'exportent bien et peuvent diriger des grands groupes.
Et vous auriez pu faire ça à la place des Inrock, finalement.
Oui, mais pourquoi pas. Après, j'ai une deuxième, une troisième, une quatrième vie, donc voilà, tout est ouvert. Et puis, ça témoigne de l'idée quand même que ce groupe est en conflit, débat ou rapport d'influence aussi avec, vous l'évoquiez, avec le Qatar, et ça témoigne probablement d'une idée de relance du groupe.
Parce avec que tous les faux verts
a clairement voilà une stratégie de soft power, pour reprendre un terme bien connu de cette émission, et donc ça témoigne effectivement d'une volonté de relance et de remonter en puissance dans ce terrain.
France Culture, 18h18, précisément. Emmanuel Hogue est directeur général des Nouvelles Éditions Indépendantes. C'est le nom de ce groupe média, du banquier punk, Mathieu Pigas, qui comprend notamment les Inrock, Radio Nova, le Festival Rock en Seine ou encore Chic Magazine. Comment on dit exactement? Comment on traduit ce mot? Ça veut dire les joues, tout simplement, Chic Magazine.
Oui, puis c'est un jeu de mots entre chic.
Le culot aussi, un peu le toupet en anglais. Vous êtes également et indirectement, Emmanuel Hogue, donc l'un des actionnaires du groupe Le Monde.
Personnellement, mais
En tant que représentant de Mathieu Pigas dans ce groupe, puisque vous le représentez à la tête du groupe. On reviendra sur ces questions, mais on va peut-être commencer par la base, c'est-à-dire les Inrock, Radio Nova, Rock en Seine. Est-ce que vous voyez une cohérence, comment dire, dans un groupe média de ce type? Est-ce qu'il y a une sorte d'unité? Alors, je ne dirais pas punko, gaucho, je ne sais pas trop quoi, mais... Non, d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait l'ADN de ce groupe?
Oui, il y a une grande cohérence dans ce groupe, et il m'appartient de la révéler et de la valoriser. Elle tourne autour de la culture et de la musique. L'ensemble de ces marques ont un investissement très fort dans le domaine de la culture et de la musique, et rassemblées sur le terrain du print, du web, du live... de la radio, pas encore de la télévision, mais peut-être, pourquoi pas, un jour, sont des marqueurs, des points de référence incontestables et indiscutés dans le monde de la musique. J'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer beaucoup de patrons de labels, de responsables de salles de musique, certains de mes homologues, de directeurs de festivals. Et les Inrock, Rock en Seine et Nova appartiennent à un monde de la musique indépendante, novatrice, attentive ou aux avant-gardes et très rattachée à l'indépendance et à la musique indépendante.
Donc le live, c'est un élément...
Voilà, alors après, si on rentre...
C'est le Festival des Inrocks aussi, on peut le dire, les Inrocks.
Alors, vous allez relancer.
Alors, il y a le Festival des Inrocks, d'une part, qu'on va relancer, puisqu'on va la nouvelle édition au mois de mars, en début du mois de mars, le 5, 6, 7 mars prochain.
Donc là, c'est une relance, hein, donc quelque chose qui avait été arrêté.
C'est une relance et, par souci de cohérence, puisque après, il m'appartient aussi de mettre en cohérence les marques les unes avec les autres, c'est Rock en scène qui, à travers un certain nombre de tremplins, feront les premières parties de chaque soirée présentant un jeune groupe de rock francilien. Donc, Rock en scène et Un Rock vont travailler ensemble, mais on n'a pas parlé de Nova, enfin, on aura l'occasion, je pense, dans les prochaines minutes d'en parler, mais font ce qu'on appelle les nuits zébrées, c'est-à-dire des lives dans une dizaine de manifestations dans la France entière, dont 3 ou 4 par an à Paris, et qui sont l'occasion de s'ouvrir à de jeunes talents. Angèle a commencé aux Nuits Zébrées de Nova. Donc,
Mais c'est un début du groupe, donc, finalement, donc, de lancer les nouveaux talents?
Il faut... En fait, c'est un groupe qui a toujours été attentif aux nouveaux talents, puisque la playlist de Nova, les premières parties de Rock en scène, ont toujours été attentives aux premiers talents, et les Un Rock sont un des lieux où, quand vous êtes pour la première fois, vous avez créé un morceau, vous commencez avec un disque, ou en tous les cas, ça ne s'appelle plus un disque, mais enfin...
Un EP.
Un EP. Voilà, un des premiers endroits où vous frappez à la porte, c'est les Un Rock ou c'est Nova pour vous faire entendre ou vous faire connaître. Donc en fait, au-delà des esthétiques ou des couleurs respectives de chacune des marques, les Un Rock sont plus tournés vers le rock anglo-saxon, Nova est plus tourné vers la world music pour simplifier un tout petit peu. Mais si on met au-delà de ces marques et de ces couleurs qui doivent être absolument préservées et gardées parce qu'elles forment l'ADN de chacune des marques, l'idée de nouveauté, de découverte, d'avant-garde sont absolument centrales et font vivre les équipes au quotidien. Permet d'ailleurs de le dire ici, des équipes de très grands talents.
Mais justement, ces différentes entités vont être rassemblées dans un lieu que j'ai visité.
Elles sont rassemblées.
Elles sont déjà rassemblées. À Saint-Ouen, dans un quartier un peu en gentrification.
À Paris, mais...
Troisième étage côté Paris, 3 étages d'un bâtiment d'ailleurs de la ville de Paris, où il y a aussi des labels indépendants que vous avez associés. C'est très moderne, c'est assez beau, il y a des cantines, c'est un peu comme ça, bobo, etc. Ça contribue aussi à cette ADN que d'avoir tout le monde dans un même lieu.
Effectivement, pour faire travailler les gens ensemble, c'est global. Quand même plus simple de les faire travailler dans un même lieu. Il m'appartient de faire rencontrer ces équipes qui, pour certaines, se connaissaient, mais pour d'autres, ne se connaissaient pas. Donc, elles commencent à travailler ensemble. Et puis, comme ce sont des personnalités, des talents pleins d'énergie, naturellement, quand on met des gens de talent et d'énergie dans une même pièce, au bout d'une heure, il en sort des projets et des idées. Parfois pas assez, mais parfois trop. Donc après, c'est à moi d'organiser un tout petit peu les choses. Mais c'est cette nouvelle dynamique, c'est ce nouveau souffle commun qu'on est en train de mettre en place autour d'un certain nombre de projets qu'on va dérouler dans les prochains mois ou dans les prochaines années.
Alors, il y a l'idée effectivement d'usine à podcast, il y a une idée, on va en parler évidemment de vos ambitions en matière de télévision, même si elle existe déjà, puisque vous avez une société de production qui s'appelle La Production, qui travaille pour aujourd'hui les télés publiques, on ne le sait pas nécessairement.
Et M6, c'est vrai.
Et M6 aussi. Et puis on parlera peut-être de vos rapprochements potentiels avec Vice Media, mais au-delà de ça, vous évoquiez là les Un Rock et Radio Nova, qui sont effectivement deux marques, utiliser le terme de marque, mais deux médias extrêmement forts. Et en revanche, on a peut-être un petit peu du mal à comprendre la stratégie qu'il y a eu depuis la reprise en main par Mathieu Pigasse, puisque quand il est arrivé aux Un Rock, il a voulu mettre l'accent sur l'enquête, il a recruté des enquêteurs, puis finalement, il a fait machine arrière. Aujourd'hui, vous revendiquez effectivement cette grande synergie du côté de la musique, et il y a eu des vraies hémorragies du côté des équipes des Un Rock, et je crois que l'année dernière, il ne restait plus qu'un seul journaliste musical, deux, en tout cas, moins de 30 ans pour la plupart d'entre eux. Vous évoquiez le côté musique du monde, le côté rock, et le grand, on va dire, perdant, c'est le rap, qui est quand même un peu le style qui émerge. Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé aux Un Rock ces dernières années, Sans parler même de la couverture sur Bertrand Cantat qui a fait fuir une bonne partie de vos abonnés.
Alors d'abord, quelle le rap, c'est pas le style qui émerge. Ça, ouais. Ça fait au moins 15 ans qu'il a...
Le mainstream, qui est mainstream.
Ça fait quand même un tout petit
peu de temps qu'il a
émergé. Et donc d'ailleurs, certains pensent qu'il s'est substitué à la variété d'aujourd'hui. Et
d'ailleurs, c'est les un-raps que vous allez annoncer ce soir.
Pardon ?
Les un-raps.
Et non,
des rock.
Non, et certains disent d'ailleurs qu'il va y avoir un retour du rock et de toute façon c'est des cycles. Hein, donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut rester assez modeste sur l'idée qu'un style musical ou un autre l'emportera définitivement. Donc aujourd'hui, la cohérence de ces marques, à l'évidence, c'est la musique. Hein. Après, il peut y avoir musique plus enquête. Musique plus instigation, etc., etc. Mais ce qui, en tous les cas, en
fait, la cohérence... Vous avez voulu recentrer sur la musique.
C'est pas se recentrer, c'est au contraire s'élargir et s'agrandir sur la musique. C'est pas du tout une restriction, c'est surtout donner de la cohérence et de faire ensemble ces marques toutes seules dans un monde médiatique très compliqué, où la concurrence, voilà, vous le dites à longueur d'émission, c'est des choses que voilà, l'expérience m'a apprises. Le monde des médias est un monde excessivement compliqué. Donc l'union fait la force. Hein, et le rassemblement des talents dans un monde qui est excessivement atomisé, compliqué, où la valorisation des contenus est très très difficile à faire. Il faut mieux rassembler les talents avec des marques différentes, avec des bannières différentes, des styles différents. Et ça, il faut absolument préserver cette diversité de marques. Mais en même temps, on voit bien qu'on est dans un univers globalement qui est culturel et musical, qui n'est pas que musical. Hein, donc c'est, et donc faire vivre ces talents ensemble et de développer des projets autour des contenus. Vous évoquiez les podcasts, évidemment. On a reporté récemment un appel d'offres de la SACEM pour développer un certain nombre de podcasts pour eux. On le développe pour un certain nombre de marques aussi.
Il y a un vrai
savoir-faire et un vrai talent des équipes. Et donc c'est l'ensemble. Développer le, renouveler le web, effectivement, sur Nova et sur les Arocs. Travailler à la relance de l'ensemble de ces marques et voir si ensemble on peut pas faire aussi des choses nouvelles. Hein. C'est-à-dire que naturellement, vous évoquiez le festival des Arocs, mais le faire avec Rock en scène, c'est nouveau. Et puis, peut-être qu'on reparlera de Rock en scène, mais développer la présence de Rock en scène, pas simplement le dernier week-end du mois d'août, mais essayer de développer d'autres manières de positionner le festival tout au long de l'année en Île-de-France ou autour de la Seine. Ça, ce sont des projets. Et Nova aussi, on a un certain nombre de projets sur Nova.
Mais alors Nova, alors je suis désolée, je repose la question un peu méchante, mais Nova, on l'a vu quand vous êtes arrivé, d'ailleurs que vous avez repris en main finalement, il y a eu la fin de cette matinale d'aucuns ont dit mythique, animée par Edouard Baird.
C'était fait avant que j'arrive. Hein,
avant que vous arriviez, donc qui était vraisemblablement trop coûteuse. Il y a eu des lancements de certaines émissions culturelles un peu à haute valeur ajoutée finalement, sur lesquelles vous êtes revenu dans la grille, comme si vous vouliez effectivement, d'une certaine manière, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de recettes publicitaires avec Nova, vous avez annulé une tournée, je crois, cet été, une tournée d'été de Radio Nova, non ?
Non, ça c'est ce que vous avez lu dans un...
Oui, que j'ai lu partout.
Vous l'avez lu dans un seul endroit, mais bon...
Quel projet pour Radio Nova ?
Mais Nova, c'est une radio musicale qui est absolument extraordinaire et qui est absolument unique dans le paysage radiophonique.
Qui a d'ailleurs progressé en audience, certes légèrement, mais malgré tout un petit peu.
Et qui est absolument extraordinaire. Elle diffuse, je me permets, là on est dans une radio, de dire des choses un tout petit peu sérieuses. Elle diffuse...
Et on vous laisse le dire à France Culture.
Plus de 1000, entre 1000 et 1200 à 1300 titres différents par mois. Là où les autres radios musicales, pour d'autres raisons, il y a des quotas, etc., diffusent 200 à 300 titres. Donc la proposition musicale de Nova, c'est une proposition qui est 4 fois ou 5 fois supérieure à l'ensemble des radios. Elle ne se ressemble à aucune autre radio en France, si c'était une seule, une radio de service public, qui s'appelle FIP. Voilà, donc je voyais que vous allez... Bon, mais à part FIP et Radio Nova...
Donc il y a un projet de diversité.
Donc c'est un projet, c'est magnifique. Et là-dessus, on ne lâchera rien. Hein, on ne lâchera rien. Et donc... Je pense que la proposition fondamentale de Nova, l'ADN de Nova, c'est ça. Voilà.
C'est après plus il peut y avoir des talks, des images, des émissions
avec forte. Oui. Autour de la musique, quand vous proposer, et quand vous discutez, je pense que vous avez des amis qui écoutent Nova, ou peut-être que vous-même vous écoutez Nova.
Qui sait?
Qui sait?
Elle n'osera pas le dire.
Je l'espère pour vous. Hein, mais en tous les cas, pourquoi vous l'écoutez? Pour écouter de la musique. Hein, fondamentalement pour écouter de la musique. Et pour écouter ce que vous n'entendez dans aucune autre radio, parce que vous aimez la musique, vous voulez entendre une musique différente, vous voulez découvrir ce qui est nouveau, et nous, les premiers talents passent par Nova. Ça, c'est la force de Nova. On n'est pas une radio de musique mainstream, en tous les cas, voilà, où on répète des tubes.
Mais alors, est-ce que ce qui est valable pour de Nova formidable. Est valable aussi pour les Inrock, à savoir nécessité de revenir aux fondamentaux, revenir au fond à ce qui faisait les Inrock, peut-être avec d'abord la musique plus que les questions de société, peut-être un peu plus de muscles, je crois que c'est une formule que vous aimez bien, plus de muscles, plus d'acidité, et parler aux lecteurs traditionnels, disons.
Il y a la musique, mais aussi, sous l'autorité de Jean-Marc Lalanne, il y a le rédacteur cinéma, il y a le cinéma, il y a les livres. Nelly Caprielan est une plume reconnue du monde littéraire, et donc on a déjà trois points forts. Il faut qu'on soit aussi fort dans le domaine des arts plastiques, et donc de couvrir l'ensemble des champs culturels de manière forte, excellente. Et moi, je me permets quand même de faire partager.
Allez-y.
Voilà ce que j'entends et je ressens, c'est-à-dire l'envie quand même d'être dans les Inrock. Quand quelqu'un produit ou fait acte de culture, acte de musique, une exposition, je parle devant Stéphane Martin, où à travers nos équipes, il y a un dialogue renoué sur les expositions à venir du Quai Branly. Oui,
quel est le problème? Pourquoi les Inrock a malgré tout des difficultés dans la version peut-être hebdomadaire? Quelle est la solution? Il y a un problème de périodicité?
Elle a exactement. Les Inrock sont confrontés à la difficulté auxquelles sont confrontés l'ensemble des magazines et l'ensemble de la presse. C'est pas particulier aux Inrock. Ce qui se passe aux Inrock, c'est assez commun. Malheureusement, on peut le dire.
Alors, comment on corrige ça?
Après, il n'y a pas de pensée magique. Il n'y a pas de solution magique, sinon on le saurait et on serait très heureux, et quasiment votre émission pourrait presque s'arrêter, parce qu'il n'y aurait plus de problème, et la presse retrouverait la croissance et la valeur. Et donc il faut densifier la proposition sur Internet, réfléchir à la question de la périodicité
le retour à un mensuel pourrait être une solution.
Toutes les options sont sur la table. Il faut y
parce
réfléchir.
Parce que c'était un mensuel à l'origine.
Ça a été un mensuel, vous avez tout à fait raison. Ouais. Ça a été un mensuel à l'origine. Il est devenu hebdomadaire. Moi, je ne m'interdis aucune réflexion. Il faut réfléchir. C'est une réflexion qui est partagée avec les équipes. Et c'est quelque chose qu'on déroulera dans les mois à venir.
Vous avez cité évidemment Jean-Marc Lalanne et Nelly Caprielan. On l'a dit, c'est un peu le paradoxe. Il n'y a plus de très grandes plumes musique parce que souvent.
Ah, écoutez, ça, c'est pas très gentil pour Franck Verjade qui est arrivé.
Non, mais c'est comme.
Voilà, qui est arrivé aux Inrock il y a quelques mois, qui est une figure très reconnue et très très respectée. Je le vois de jour en jour par l'ensemble des labels et du monde de la musique. Peut-être qu'il y a eu un moment où il y avait peut-être moins de. Je sais à qui vous pouvez faire référence. Et d'ailleurs, je les salue, les grands anciens, et que je les apprécie beaucoup. Et puis
Il y a un modèle qui est inattendu et qui fonctionne, c'est celui du Guardian, qui est un peu à l'opposé du modèle Mediapart. Le Guardian, c'est un quotidien anglais qui est gratuit sur le web. Donc le site est gratuit, ça leur a permis de monter à 1,35 à peu près millions de pages vues par mois. Il fonctionne. D'abord sur la publicité, mais aussi sur les dons, avec un modèle qui lui permet de financer 750 journalistes. Au fond, ils ont supprimé des fonctions de support, comme on appelle, pour se reconcentrer sur la rédaction. Et les gens qui payent de manière volontaire, puisque ce sont des dons, ils savent qu'ils payent pour la rédaction. Est-ce que ce n'est pas des modèles à explorer pour un journal comme les Inrock?
Moi, aujourd'hui, je ne m'interdis rien, et l'ensemble de ces questions sont sur la table. De manière tranquille, posée, sérieuse. Mathieu Pigas est un actionnaire vraiment engagé auprès de ces marques. Donc tout ça se fait dans un contexte, tranquille et posé, mais effectivement, c'est des questions qu'il faut regarder très, très sérieusement.
Zoé.
Alors, est-ce qu'on peut parler justement de votre stratégie? Parce que je sais que vous en avez une, et ce serait cohérent, sur l'image, la télévision. Donc, il y avait des velléités, je crois, de faire une télévision des Inrocks, où il y a eu un rapprochement avec Vice Media. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelle est la nature de ce groupe? Pourquoi ce rapprochement, il a lieu sans avoir eu lieu?
Non, aujourd'hui, c'est plus
l'actualité.
Non, c'est plus d'actualité. Est-ce qu'il peut y avoir l'idée d'une télévision?
Ouais.
Bon, c'est un investissement qui est très lourd, une télévision. Hein. Le ticket d'entrée pour une télévision, c'est 40 à 50 millions d'entrées. Aujourd'hui, est-ce que nous avons 40 à 50 millions?
Vous n'êtes pas certain.
Et puis, est-ce qu'il ne faut pas le mettre ailleurs?
Certain. Ouais. Et effectivement, c'est une bonne question, Frédéric Martel. Je pense que si...
Nous
avions 40 ou 50 millions, peut-être qu'on pourrait faire autre chose, agrandir le groupe, enrichir le nombre de marques et de médias. En revanche, je pense que la radio numérique terrestre, le DAB+, nous offre des possibilités de développement de nos marques, et notamment des Inrocks dans le domaine de la radio. Nous avons une marque qui est très forte, qui est très liée à la musique, qui est très prescriptrice, qui est très identifiée. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons très sérieusement.
Donc d'avoir une radio Inrock qui ne serait pas, dont on essaierait qu'elle ferait, elle serait là, pas en concurrence avec Nova.
Peut-être,
un petit scoop.
Le festival des Inrocks revient, la radio Les Inrocks va peut-être démarrer. Un mot sur Rock en scène, ça sera la 18e édition l'an prochain. Alors vous êtes en partenariat avec AEG, c'est un peu technique, mais disons que vous n'êtes pas seul à bord. C'est un peu l'anti-Live Nation, c'est-à-dire peut-être moins la grosse cavalerie, mais en même temps quand même des concerts de poids.
C'est des partenaires très forts, mais qui ont un positionnement, en tous les cas, différent de celui de Live Nation, qu'ils développent pas, on ne souhaite pas développer, en tous les cas, leur marque comme Coachella ou d'autres qui existent
un festival
par ailleurs.
En Californie.
Mais en tous les cas, c'est des partenaires très très sérieux. J'étais très heureux et ma nomination à la tête de LNEI a coïncidé avec l'arrivée d'un...
LNEI, c'est le groupe. Hein,
oui,
ça s'appelle les Nouvelles Émissions Indépendantes.
Pardon, voilà. Peut-être aussi qu'en 2020, on fera peut-être évoluer aussi les choses.
Ça va s'appeler les Inrocks aussi.
Je reviendrai pour vous donner la suite. Mais en tous les cas, oui, ma nomination a coïncidé avec l'arrivée de Jim King à la tête du département des festivals en Europe. Et avec lui, on forme un tandem, très, très heureux et très fort. On travaille sur l'édition, de 2020. Ne me demandez pas, vous pouvez me le demander, bien évidemment, mais en tous les cas, je ne vous répondrai pas. Mais voilà, nous allons bientôt sortir.
Ce n'est
sortir,
pas la peine de faire mal à ce micro sous prétexte que vous ne voulez pas répondre à nos questions.
Et on est d'accord que c'est un petit peu le live aujourd'hui. On en parle souvent dans Soft Power. Oui. On a parlé des difficultés de la presse, des difficultés du fameux gâteau publicitaire dont on parle notamment à la radio, de la question aussi plus globale de la crise de légitimité de la prescription en matière culturelle. Le live, c'est aujourd'hui un endroit où globalement, c'est là où se concentre entre la valeur dans le domaine de la musique.
Alors,
c'est important pour vous.
Vous avez raison de le signaler. On voit bien que la filière musicale a souffert énormément. C'est un thème qui est revenu souvent, que vous traitez souvent ici. Aujourd'hui, sa croissance économique repart. La filière retrouve de la valeur. Et,
avec le live, avec le streaming,
et voilà,
etc.
Mais dans une répartition, naturellement, qui est totalement différente de celle d'hier. Et aujourd'hui, les deux gagnants de cet redémarrage économique, c'est le live et c'est les plateformes. Donc, les plateformes
Spotify,
pour nous,
Deezer, etc.
Voilà. Et les plateformes pour nous, et notamment pour Nova, nous complique les choses puisque aussi dans les audiences, les auditeurs vont plus facilement écouter une plateforme où ils peuvent faire leur playlist que Radio Nova, mais c'est à nous de trouver des solutions alternatives, d'être plus sur le web, de faire plus de playlists, etc. Et sur le live, on a les Inrocks qui font du live, Nova fait du live, Rock en scène font du live, et donc là, il faut probablement être plus présent et plus organisé.
Emmanuel Hogue est directeur général des nouvelles éditions indépendantes, c'est-à-dire en fait du groupe du banquier Mathieu Pigasse, Les Un Rock, Radio Nova, Rock en Seine, Chic Magazine et d'autres, on l'a dit. Venons-en à Mathieu Pigasse et à notamment ses participations dans le groupe Le Monde, puisque à ce titre vous suivez aussi ces questions. Mathieu Pigasse, je rappelle que c'est un banquier, donc qui était PDG, enfin qui est toujours PDG de la banque Lazard, mais il quittera cette fonction, je crois, à la fin du mois de décembre. Et à l'origine, pour bien réexpliquer ce qui s'est passé, à l'origine, le groupe Le Monde a été en partie racheté par ce qui s'appelle Le Monde Libre. C'est une structure qui comprend notamment à parité, ils étaient trois actionnaires principaux ainsi que Prisa, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ces trois actionnaires qu'on appelait BNP, c'était essentiellement, c'était Pierre Berger, c'était Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Et puis, Pierre Berger est décédé, comme on sait. Ses parts sont aujourd'hui entre les mains d'un actionnaire, Madison Cox. Et puis Mathieu Pigasse et Xavier Niel, qui s'entendaient très bien dans ce trio, se retrouvent en face à face et apparemment, sans rentrer dans les détails, il y a eu des tensions assez vives qui se sont traduites par une crise très forte au journal Le Monde cet automne. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Que s'est-il passé, Emmanuel Hogue, entre les actionnaires? D'abord, avec l'entrée au capital d'un certain Daniel Kretinsky, un millionnaire, milliardaire même tchèque, et ensuite avec la rédaction.
Alors, pour être précis, Daniel Kretinsky est arrivé dans la participation de Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse restant toujours à 51%
et lui 49%.
Et à 49%.
Et eux-mêmes ayant 27% à peu près.
Xavier Niel et Mathieu Pigasse sont restés toujours co-contrôlants du Monde. Bon, un certain nombre de débats ont eu lieu entre eux. Voilà. Aujourd'hui, ces débats qui étaient compliqués ou difficiles sont derrière nous. Et aujourd'hui, l'intérêt général du groupe Le Monde est partagé par tous dans un rapport de discussion très positive, très dynamique. Xavier Niel a fait une proposition très forte et très engageante autour de la création d'une fondation pour l'avenir.
C'est une idée que Mathieu Pigasse veut suivre.
C'est autour de cette idée forte, voilà, que aujourd'hui chacun
travaille. Est-ce qu'elle
n'existe
pas déjà, cette fondation, dans la mesure où le droit d'agrément qui a été finalement signé, on est finalement déjà dans une forme de fondation, un peu de type Mediapart, dans le sens où ça devient très compliqué de faire entrer un investisseur à un prix intéressant.
Oui, mais enfin, en tous les cas, oui, mais là on rentre un peu dans des sujets un peu compliqués. Mais en tous les cas, la fondation crée de fait une incessibilité du capital, hein, ce qui n'est pas tout à fait le jeu du droit d'agrément qui permet l'accessibilité du capital et qui permet aux rédactions de donner son avis pour ou contre sur... Voilà. Donc vous avez deux types de mécanismes. La fondation qui, elle, crée une accessibilité et puis l'agrément qui crée une option ou un droit de regard sur...
L'agrément des rédactions, voilà, et de ce qui s'appelle le donc pôle d'indépendance qui comprend les sociétés de rédacteurs, les sociétés, les personnels, lecteurs et actionnaires historiques.
Donc aujourd'hui, on est dans un environnement que chacun reconnaît absolument pacifié. Les actionnaires se parlent, travaillent.
Ça veut dire qu'ils se parlent
dans
plus.
Dans une très grande qualité, je crois, et dans un très grand...
Et vous avez sérieux. Un peu joué les go-between là-dedans.
Et c'est autour de la fondation que chacun travaille. Projet, je fais un petit pas de côté sur la fondation. Sujet sur lequel j'avais... beaucoup de travail quand j'étais à l'AFP.
Oui, on y reviendra sur le conseil de déontologie et les questions de fondation.
Et voilà, avec quelqu'un qui était au conseil d'administration de l'AFP, qui est Julia Cagé, qui avait aussi beaucoup réfléchi
et que vous connaissez bien. Et qu'on a reçu en session. Mais une question peut-être pour comprendre la stratégie des différents acteurs. D'abord, Mathieu Pigasse, donc banquier, qui a été assez absent en fait. Il n'était pas très présent au conseil d'administration du Monde, même si désormais il y revient. On l'a dit qu'il est un peu le banquier punk. Pour un peu continuer dans cette métaphore, pour reprendre le titre d'un album de Clash, should I stay or should I go? Il veut rester dans la presse, dans Le Monde, ou il veut partir? C'est quoi sa stratégie?
Entre Xavier Niel et Mathieu Pigasse, voilà, c'est dans cette discussion entre eux, qui est une discussion quand même de partenaires
financiers
et d'amis, depuis une dizaine d'années qu'il appartient de trouver la solution et ils sont en train de la trouver. Ils ont considéré à juste titre que leur association a été un succès pour le monde. Ça a été un succès pour le groupe. C'est un succès. Les marques ont retrouvé du lectorat, ont retrouvé de l'audience, ont retrouvé, vous disiez du muscle tout à l'heure, mais enfin de la force.
Avec un directeur qui est Louis Dreyfus, qui est un proche de Mathieu Pigas, qui avait été d'ailleurs adoubé par Pierre Berger, mais qui s'est rapproché de Xavier Niel. On a vu aussi une tension.
Et donc, en tous les cas, sous la dynamique très forte de Louis Dreyfus, ces marques ont retrouvé beaucoup de force. Je pense qu'il considère que ce succès d'hier et d'aujourd'hui mérite d'être pérennisé, voilà, sous la forme d'une
un mot sur Daniel Kretinsky, donc ce milliardaire tchèque qui a racheté cher son entrecapital dans le groupe Le Monde, dont finalement il ne peut peut-être pas totalement acquérir la part complète de Mathieu Pigas. En tout cas, ça a l'air compliqué. Il a eu une option pour acheter la totalité, selon vous?
Non.
Quelle est sa stratégie, Daniel Kretinsky? Comment vous l'analysez?
Il faut lui poser la question. Moi, je suis pas le représentant de Daniel Kretinsky. Je crois qu'il souhaite se développer dans les médias en Europe.
Je crois avec dans son propre pays avec des médias délibérément, en tout cas dans leur ligne éditoriale, à leur début pro-européen, avec pour certains, sur notamment un site qui s'appelle info.cz, qui a été un site où il avait engagé de grandes plumes pour traiter l'actualité européenne. Il y a eu un resserrement nationaliste très important ces derniers mois.
Il a aussi racheté Marianne.
Oui, et les magazines de Lagardère. Mais enfin, là, je ne suis pas le représentant de Daniel Kretinsky.
C'est davantage de Denis Oliven ou autre.
Oui, là, je dois dire que je ne suis pas...
Non, mais vous comprenez les stratégies. Il y a aussi, évidemment, la place de Denis Oliven, qui est un ancien, qui avait tenté de racheter Le Monde avec une partie d'actionnaires, qui revient un peu, au fond, par la porte, alors qu'il était sorti par la fenêtre, ou plutôt l'inverse.
Vos questions témoignent du fait qu'il y a eu un paysage qui a été compliqué ou difficilement lisible ou compréhensible. Aujourd'hui, je crois que l'ensemble des parties prenantes, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement et en mettant au cœur et en centre l'intérêt général des rédactions, des équipes éditoriales, des différents titres du groupe Le Monde, sont en train de travailler à une solution. Dans l'intérêt de chacun.
Le droit d'agrément, c'est Mathieu Pigas a dit cité par Anna Cabana dans le JDD, il a dit j'ai fait du jutsu, c'est-à-dire l'art du vide. C'est créer du vide pour retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Ça veut dire que c'était pas très, il prenait pas ça très au sérieux.
Écoutez, ça je peux pas commenter. Il en a été à l'initiative. Il l'a proposé. Il a contribué.
Il voulait pas le signer alors que Xavier Niel à un moment donné a voulu le signer.
Non.
Il y a eu des allers-retours un peu compliqués. Sans rentrer dans les détails.
Vraiment, là, il faudrait. En tous les cas, il l'a proposé et il l'a signé. Ça, c'est absolument factuel.
Alors, il y a un conseil de déontologie qui a été lancé cette semaine. Enfin, en tout cas, la première séance a eu lieu ce 2 décembre. Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Vous aviez été à l'origine de ce projet, notamment par un rapport que vous l'aviez suggéré au gouvernement. Ça suscite tout un tas de tensions. Laurent Geoffrin le défend dans Libération cette semaine. Étienne Jernel l'attaque dans Le Point. On recevra d'ailleurs les uns et les autres. Étienne Jernel sera notre invité début janvier. C'est pour recueillir les plaintes du public, que la profession très décriée le soit moins, etc. Comment vous voyez ce conseil de déontologie?
Alors, je n'en suis pas l'initiative. Pour mettre les choses en place, le gouvernement m'a demandé de faire un rapport qui succédait d'ailleurs à un autre rapport, parce que ce n'était pas le premier sur le sujet.
C'est assez classique.
Sur la possibilité ou les possibilités de mettre en place un conseil de déontologie comme il en existe dans la plupart des pays européens et qui n'existe pas en France. Donc, après 3 mois d'audition, j'ai dans mon rapport proposé un chemin possible de création du conseil de déontologie.
Donc vous êtes un peu à l'origine, alors du coup.
Alors, j'ai dit, écoutez, si il doit être créé, voilà le chemin auquel il doit, enfin, un chemin possible. En rappelant et en répétant, je pense, ce mot doit figurer au moins une cinquantaine de fois dans le rapport, que ça ne peut être que de l'auto-régulation.
Mais c'est le cas d'ailleurs, c'est ça ce que dit Laurent Geoffrin.
Oui, il faut le répéter et le répéter.
C'est pas le gouvernement qui le gère. Oui.
Ce n'aurait strictement aucun sens, ce serait stupide, ce serait idiot, ce serait vraiment, vraiment absurde. Mmh. Ça ne peut être qu'une initiative de journaliste à l'intérieur de la profession. Mmh. Si ça n'est autre chose... À ce moment-là, il faut arrêter tout de suite et ne même pas en parler. Ça n'a pas de sens.
C'est voilà. La profession prise en étau entre le fait qu'effectivement, si c'est un gouvernement qui est à la manœuvre, ça n'a pas de sens, et en même temps, le fait qu'il faut pouvoir se prémunir contre ces questions de potentiellement d'actionnaires avec d'autres visées. On sait qu'en France, on dégringole sur le palmarès en termes de liberté de la presse à cause de cette question des propriétaires. Mmh. Mais finalement, la question, est-ce que ce n'est pas celle-là, et au regard aussi de l'entrée de M. Kretinsky au Monde, on est sur des médias qui globalement sont, on peut le dire, quasiment tous déficitaires. C'est la fameuse idée de ces danseuses. Est-ce qu'ils existent encore, ces grands propriétaires, qui sont prêts à donner de l'argent pour la presse, presque pour la beauté de l'art? Est-ce que cette question de la déontologie, elle n'est pas au cœur finalement de tout ça? Comment
Moi,
on résout cette équation?
Je ne crois pas qu'on dégringole dans le palmarès de la presse à cause des
de la concentration des propriétaires, ça pour le coup. C'est ce que dit RSF.
La presse allemande est excessivement concentrée. Je pourrais vous trouver 10 pays en Europe qui sont tout aussi concentrés
en Espagne,
que les Français.
Par exemple,
et ils sont pas du tout, voilà. Donc ça, il n'y a pas de lien entre la concentration, voilà. Par ailleurs, vous êtes ici dans un média où il y a un conseil de déontologie et vous êtes aussi sous le regard, vous l'avez reçu récemment, du CSA et de son président. Donc oui, il y a des dispositifs qui régulent ou qui regardent la manière dont l'information et les contenus sont produits. Donc la question est de savoir, au-delà de l'audiovisuel, est-ce que le reste des médias, est-ce que ce qui se passe sur Internet mérite une régulation? Faut-il mieux qu'elle se fasse par les professionnels eux-mêmes par rapport à leurs critères, dans un cadre de responsabilité? Ou faut-il qu'elle se fasse pas du tout, ou d'autres, ou par le juge à la 17e chambre, une fois tous les 10 ans, en laissant tout le reste passer? C'est une question qui est ouverte. Chacun, il y a certains qui pensent que c'est mieux de faire quelque chose, et d'autres qui pensent que c'est mieux de ne rien faire. Voilà.
On continuera à évoquer cette question. Merci infiniment à vous, Emmanuel Hogue, d'avoir été notre invité ce soir. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Car Soft Power, ça continue avec, dans un instant, le second invité de l'émission, Stéphane Martin, le président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Et on va parler de politique culturelle, mais aussi d'art premier, de restitution des œuvres d'art ou encore, justement, de Jacques Chirac. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power pour suivre l'actualité des industries créatives, du numérique, des médias et de la politique culturelle chaque semaine, et ce podcast est disponible sur iTunes gratuitement sur la page de Soft Power sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après Nighttime, ça a été découvert d'ailleurs sur Radio Nova, du rappeur Masterpiece sur France Culture.
Merci. I cross your mind in the nighttime. In the night time, I cross your mind in the night time. In the night time, 'cause you're always in the mood then. In the mood then, 'cause you're always in the mood then. In the mood then, in the mood. You come alive at night, night, night. You're pinging off my line, line, line. Trying to get this off my mind. It's 2 a.m. go, I don't have time. Furthermore, just fly by. We go rounds, you know it's worthwhile, it's worthwhile. Wow, I know you want the neighbors to hear, girl. Your friends are telling you to stay clear, girl. But you do what you want, you do what you want, you do what you want tonight. Let's make this thing last, I'm pulling your heart. I cross your mind in the night time.
hors micro, Emmanuel Hogg, vous nous disiez que vous vous remettiez à la musique finalement.
C'est le petit jeune Emmanuel Hogg des 10 dernières années. Oui, il y avait quelques
petites carences.
J'avais quelques petites carences, vous avez raison. Voilà,
Masterpiece.
Les rattrape.
C'est un londonien d'une vingtaine d'années, star montante du rap anglais avec son nouveau titre, donc Nighttime. Comme souvent dans la musique underground, avant qu'elle devienne de masse, eh bien c'est sur des plateformes, en l'occurrence une plateforme allemande, SoundCloud, que le morceau a été publié, suite à un pari un peu fou entre ses amis, avec ses amis. Radio Nova a également, je l'ai dit, repéré le jeune rappeur Masterpiece sur France Culture.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h55 sur France Culture, vous écoutez Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique, et je reçois maintenant Stéphane Martin. Rebonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président pour encore quelques jours du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. C'est le musée des arts premiers. D'ailleurs, pourquoi trois noms au fond? Quai Branly, Jacques Chirac, art premier, on ne sait plus.
Il s'est jamais appelé art premier. Art premier, c'était vraiment une invention de journalistique, mais il s'est jamais appelé art premier. Il s'est appelé Quai Branly parce que c'était une sorte de nom de code très pratique, c'est-à-dire que ça ne préjugeait pas de ce qui allait se passer à l'intérieur. Et puis, il y a quelques années, 2 ans, je crois, le président Hollande a eu l'idée de lui donner le nom de Jacques Chirac.
Alors, on a dit que vous le dirigez, vous avez même porté à sa création, construit par Jean Nouvel, mais vous étiez déjà chargé, à partir de 1998, chargé de créer mission de préfiguration, puis de diriger ce musée du Quai Branly. Je rappelle d'ailleurs votre parcours, vous êtes énarque, il y en a d'ailleurs deux ce soir avec Emmanuel Hogg. Vous avez dirigé, vous avez été à la direction, pardon, du centre Pompidou, je crois, lui aussi, il a plusieurs noms, le musée d'art moderne, Beaubourg, etc. Bref.
Voilà. C'est très pratique en fait.
Dominique,
le système est très bien.
Bozo notamment, c'est ça. Et
non, j'étais au Centre Pompidou avant Dominique Bozo, à l'époque d'Hélène Arveller. Ah.
Longue carrière dans la culture. Vous avez été ici comme directeur de la musique.
Non, j'ai jamais été directeur de la musique, mais j'étais directeur adjoint de la musique.
Ouais, c'est pas très loin.
Je m'occupais surtout des orchestres, pas beaucoup de radio.
Aussi de l'orchestre, l'ensemble intercontemporain, Pierre Boulez.
Oui.
Vous avez été directeur adjoint du cabinet de Jacques Toubon, ministre de la Culture, directeur de cabinet de Philippe Douste-Blazy, également ministre de la Culture, tout ça pendant la cohabitation, 93-97. Et donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un énarque de la culture, au fond?
Qu'est-ce que c'est qu'un énarque de la culture?
C'est la question.
Écoutez, j'ai passé effectivement une bonne
partie...
C'est
un compliment, hein, ou alors un animal exotique, je ne sais pas.
Vous savez, énarque, c'est un drôle d'adjectif, parce que c'est 2 années d'école qui vous collent à la peau tout le reste de votre...
Ça permet de faire des carrières. Aussi,
vous êtes quoi? Vous êtes un normalien de la
pas
radio?
Pas du tout.
De
ni normalien, ni énarque.
Non.
Nul n'est pas.
En tout cas, je pense que ça, ni Emmanuel, ni moi, ça vous définit beaucoup. Mais enfin, c'est une école tout à fait respectable.
Qu'est-ce qui vous définirait, alors? La passion d'abord sur, au fond, le... représenter le monde, la diversité de ce monde?
Écoutez, ce qui a été le moment, il y a eu 2 moments marquants dans ma jeunesse, dans le début de ma vie. Ça a été ma rencontre avec l'Afrique, d'abord plus jeune avec mes parents, et puis ensuite j'ai eu l'occasion de travailler pendant 4 ans auprès du président Abdou Diouf au Sénégal. Et ça a été le passage que j'ai fait ici, justement auprès des orchestres. Et ce que j'aime, c'est la production, c'est-à-dire imaginer la rencontre, finalement un musée, c'est un capital, c'est une collection. On a souvent tendance à oublier qu'au cœur d'un musée, il y a d'abord une collection qui est compliquée. Emmanuel est fils de conservateur, donc il connaît tout ça. Une collection, c'est extrêmement fragile, c'est difficile à conserver, mais en même temps, c'est difficile à rencontrer. Et donc, le rôle d'un directeur de musée, c'est de créer la rencontre entre cette collection et le public. Il y a des attentes qui changent selon les périodes, selon son âge. Voilà, c'est cette évolution constante du rapport à l'art qui m'a intéressé pendant ces peut-être 30 ans.
Vous avez aussi été en Polynésie, je crois que vous y avez fait votre service militaire. Donc, il y avait déjà une fibre, non seulement internationale, mais en particulier sur ce qu'allait être bien plus tard le musée des arts premiers, qui n'est pas des arts premiers d'ailleurs, enfin, qui ne s'appelle pas comme ça.
Oui, c'est vrai, puis je, vous savez, j'appartiens à la génération des charters, des premiers billets d'avion pas chers, etc. Donc de cette génération qui a commencé à beaucoup voyager.
Un peu rimbaldienne, en fait.
Je ne sais pas si je suis allé un petit peu plus loin que Rimbaud, mais j'ai moins de talent.
Oui, mais c'était une autre époque. Mais vous le lisez d'ailleurs.
Oui, j'aime Rimbaud.
Et vous. Tous les le frère et tout ça, les voilà. Biographes, etc. Le musée des arts premiers, le musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac, ça aurait pas eu lieu sans Chirac?
Non. Non.
Qu'est-ce qu'on aurait gardé quoi? Un musée de l'homme avec un.
Oui,
musée...
je crois que c'était pas du tout.
Ou on aurait un département au Louvre?
Il y a vraiment eu deux aventures, peut-être deux et demi, parce que l'Institut du Monde Arabe aussi, c'est une aventure assez particulière. Mais dans ce qu'on a appelé les grands projets, il y en a deux qui sont tout à fait particuliers. C'est le Centre Pompidou et le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui n'étaient pas du tout dans les tiroirs. Et d'ailleurs, tous les problèmes qu'ont connus ces deux projets viennent du fait qu'ils n'étaient pas dans les tiroirs. Je ne sais pas faire insulte au président Mitterrand. Giscard d'Estaing que de dire qu'il n'a pas inventé le
Beaubourg.
Concept d'un musée du 19e siècle et qu'il a accompagné le projet du musée d'Orsay avec beaucoup d'attention.
Mais là, c'est vraiment une idée de Jacques Chirac.
Là, c'est vraiment une idée de Jacques Chirac contre tout le monde, contre son ministre, contre le ministère de la Culture,
contre le Premier ministre,
contre les conservateurs.
Avant la dissolution.
Pourquoi contre, alors qu'est-ce qui était problématique?
D'abord, il y avait des questions de finances, puis il y avait d'autres projets.
Alain Juppé, vous voyez pas trop ce que ça pouvait donner?
Non, Alain Juppé était comme tous les premiers ministres. Il essaye de tenir les finances publiques et il essayait de faire en sorte que le budget de l'État n'explose pas. Non, ce qui est plus intéressant et plus amusant pour l'histoire culturelle, c'est Emmanuel, c'est ça aussi la haine qu'a créé le Centre Pompidou, le sentiment d'opposition qui ne s'est jamais éteint contre le Centre Pompidou. Et donc il y avait dans les cartons secrets de la rue de Valois un projet qui était de construire un jour Quai Branly, un musée historique du XXe siècle, c'est-à-dire de la période, disons, à partir de la guerre de 14, qui viderait le Centre Pompidou de ses Bonnard et de ses Picasso, et qui en referait ce qu'il n'aurait dû, selon ces gens, jamais cesser d'être, c'est-à-dire un centre d'art. Et donc le fait que Jacques Chirac arrive avec un nouveau projet, et en plus implanté sur ce lieu, crée beaucoup d'hostilité.
Et puis il y a la dissolution, et finalement, ça c'est une mauvaise nouvelle, mais ça va être une bonne nouvelle pour ce musée, paradoxalement, non?
Oui, alors ça c'est l'aventure classique de la vie politique. Il se trouve que le Premier ministre Lionel Jospin croyait à ce projet et qu'il en avait en tout cas senti la dimension, je dirais, métaculturelle, le fait que c'était dans la pensée de Jacques Chirac, non pas un caprice, non pas un geste de collectionneur, un geste d'amateur. Jacques Chirac disait « si j'avais été collectionneur de timbres, j'aurais pas fait un musée de la philatélie », mais que c'était un geste de regard sur le monde. Et que la France, Paris, vous savez, Paris, c'est une petite ville dans laquelle les musées sont presque...
Tout est relatif. Mais
non, on peut aller, on le voit d'ailleurs en ce moment, malheureusement, avec les grèves.
À pied.
On circule à pied.
Oui, enfin, il y a d'autres,
du Quai Branly,
d'autres départements autour.
En tout cas, c'est une ville où les musées sont extrêmement visibles.
Mais pour Jacques Chirac, ça change tout, au fond. Il devient dans les Guignols, ce n'est plus quelqu'un d'antipathique, c'est celui qui aime les Indiens.
Oui, ça a commencé un peu avant, avec l'exposition sur les Taïnos. Ouais. Et la rencontre qu'il a fait avec ce personnage extraordinaire qui était Jacques Kerchache.
Galeriste bien connu, surtout collectionneur d'art africain.
Marchand, un personnage tout à fait étonnant qui avait constitué...
Qui est au fond un peu le co-parrain de ce musée.
Oui, tout à fait, qui est une sorte de fou, de Malraux, passionné par l'idée du musée imaginaire, par l'idée permettre le croisement, la rencontre de cultures qui jusque-là étaient considérées. Bien sûr que l'art africain, par exemple, est depuis très longtemps dans les musées, mais il était dans les musées parce que il a inspiré Picasso, parce qu'il a inspiré Matisse, ou parce que il a permis à Claude Lévi-Strauss de construire des
on y reviendra, mais pour terminer sur Jacques Chirac, qui dit dans un livre qui vient de paraître, où on lui demande pourquoi vous aimez les cowboys, pourquoi vous aimez les films de cowboys, lui demande Jean-Luc Barré, il répond contrairement à ce que vous pensez, j'aime beaucoup ces films de western parce que je suis du côté des Indiens.
Oui, je pense que ça m'étonne pas qu'il ait pu dire quelque chose pareil. D'abord, Jacques Chirac était quelqu'un qui aimait ce qui était différent de lui. C'est quelqu'un qui n'aimait pas son image, son reflet, son semblable, et j'imagine qu'il était effectivement plus attiré par les Indiens, pour des tas de raisons, que par les cow-boys.
Mais ça veut dire que c'est un projet plus diplomatique finalement que de politique culturelle, ce musée ?
En tout cas, ce n'est pas un projet personnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Jacques Chirac a conçu vraiment comme président de la République et non pas comme amateur d'art premier. C'est un projet qui est né à un moment où, de toute manière, les musées d'anthropologie étaient en crise. C'est-à-dire que ces musées qui étaient pour la plupart nés dans un contexte colonial, qui étaient d'abord là pour... il faut se souvenir que la plupart des grands pays colonisateurs ont eu d'abord contre eux leur opinion publique. Ils ne voulaient pas de cette colonisation. Donc les premiers musées qui sont créés en France, en Angleterre ou en Belgique, par exemple, étaient là pour montrer les richesses, entre guillemets, que l'on pouvait tirer de ces pays. Inciter
et pour produire aussi un discours où l'Occident venait sauver des créatures inférieures par nature.
Ensuite, il y a eu une deuxième époque, un peu plus heureuse tout de même, où il s'agissait de faire voyager en quelque sorte le visiteur, de lui montrer le tour du monde en 80 vitrines. Et quand le projet de Jacques Chirac est né, à la fin des années 80, on voyait bien qu'on était arrivé à bout de souffle, parce qu'aller voir un canoë d'Esquimaux flotter sur une mer d'ouate dans une vitrine avec des...
Vous pensez à quelqu'un en particulier, non ?
Non, je pense au fait que tous les musées à cette époque-là...
Le musée de l'homme, évidemment,
on va en parler. Mais sur le musée de l'homme, justement, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'au fond on n'aurait pas pu le transformer ou alors faire un département au Louvre et on n'aurait pas eu besoin à ce moment-là du musée du Quai Branly ?
Alors, il y a eu beaucoup d'idées...
Je me fais l'avocat du diable, là, comme
vous voulez. Il y a beaucoup d'idées qui se sont rencontrées dans tout ça. Il faut se souvenir de l'épisode à New York du Metropolitan Museum quand Nelson Rockefeller finance et convainc le Metropolitan, qui à l'époque n'en veut pas vraiment, de créer un département d'art africain et océanien au sein du Metropolitan, sous un angle très esthétique, composé de chefs-d'œuvre. Et effectivement, la première idée de Jacques Chirac... c'est de se dire que le Louvre, c'est au Louvre, surtout à cette époque-là, les chiffres ont un petit peu bougé depuis, 80% des visiteurs n'allaient dans aucun autre musée. Donc si on ne les touche pas là, on ne les touche pas ailleurs, ils ne vont pas aller au musée Guimet.
Donc on aurait pu faire un département.
Donc il avait cette idée, c'était la première, c'était à ce moment-là moi, que j'ai commencé à travailler avec lui, sauf que le Grand Louvre était en train de se terminer et qu'il n'y avait pas la place. Donc il a eu l'idée de faire deux choses en parallèle. D'une part, une sorte de département symbolique, un espace qui fait 1000 mètres carrés, qu'on appelle le pavillon des sessions, où il y a une centaine de chefs-d'œuvre et où arrivent, souvent par hasard d'ailleurs, des visiteurs qui ont payé pour voir la Joconde. Et puis, bling, ils se trouvent en face d'un chef-d'œuvre bembé ou polynésien. Et d'autre part, imaginez un musée très inspiré, je crois, du modèle du Centre Pompidou. Jacques Chirac avait été vraiment très, très intéressé par ses liens aussi avec, par la manière, disons, dont le Centre Pompidou avait réussi à être autre chose qu'un simple musée, mais vraiment un centre s'intéressant aussi aux arts de la scène, à la musique, à la danse, etc. Et donc d'utiliser la pile atomique de la fabuleuse collection française qui était au Musée de l'Homme, et pas seulement au Musée de l'Homme, parce que Malraux, tout ça est une longue histoire, vous savez, Malraux avait déjà lui-même pris une partie de cette collection du Musée de l'Homme pour créer un musée qu'il voulait, un musée de l'art africain et océanien esthétique, dans l'ancien musée des colonies. Donc, réunir l'ensemble de cette collection et la mettre au service d'une vision nouvelle, d'une vision plus ouverte et plus moderne.
Vous êtes sous une double tutelle, ça ne doit pas être toujours facile, ministère de la Culture bien sûr, mais aussi ministère de la Recherche.
C'est une chance plutôt, parce que ça nous permet d'avoir...
Vous puisez à deux cagnottes.
Bon, ça permet effectivement de ne pas être un poids. Vous savez, au moment où le Quai Branly est né, les grands projets présidentiels n'avaient pas très bonne presse. Ouais. On a l'impression que c'était vraiment des gouffres financiers.
Surtout chez les Chiraciens d'ailleurs, par rapport aux Mitterrandistes, mais c'est une parenthèse.
Chez presque tout le monde, on est arrivé au bout d'un cycle et il fallait faire autrement. Et puis d'autre part, le ministère de la Recherche nous apportait une ouverture internationale, nous apporte toujours une ouverture internationale. Là, le ministère de la Culture, tel que l'a imaginé Malraux en France, c'est à la fois une très grande chance... Mais c'est aussi le risque d'une séparation avec le monde de la recherche, avec les doctorants.
L'éducation nationale, etc.
On est le seul pays, par exemple, à ne pas former nos compositeurs de musique à l'université. On les forme dans des conservatoires, etc. Et donc, il faut créer des passerelles et des lieux comme la Cité des Sciences, comme le Grand Palais maintenant avec le Palais de la Découverte et le Quai Branly. Sont des passerelles, à mon avis, très précieuses entre ces deux.
Alors, on ne peut pas ne pas vous interroger sur un débat d'actualité, sur toutes ces questions, Zoé Sfez, c'est la question de la restitution des œuvres d'art.
Oui, parce que donc il y a eu un moment fort il y a maintenant 2 ans du président Emmanuel Macron qui s'est prononcé en faveur, disons, des restitutions en annonçant.
Ça, c'était le discours de Ouagadougou.
Le discours de Ouagadougou, donc au Burkina Faso, où ensuite il annonce la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin. Il commande donc ce fameux rapport à Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, donc deux experts, qui a été remis désormais, je crois, il y a un peu plus d'un an, quelques mois, un rapport qui préconise, et en tout cas qui même organise en 3 temps, la question de la restitution. Vous, très vite, vous faites partie des gens qui vous êtes opposés à cette idée. Alors, petit rappel des chiffres, il y a aujourd'hui 90 000 objets d'art africain en France, dont 70 000 qui sont au Quai Branly, qui font partie de votre collection, et 46 000 qui ont été acquis pendant la période de la colonisation, alors sous différentes formes. Parfois, on est sur de l'acquisition, parfois on est clairement dans du vol, parfois on est dans de l'achat, mais toute la question, c'est la question du consentement qui est au cœur de ce rapport. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a consentement quand il y a un achat pour un prix qui était l'équivalent à l'époque de 2 œufs d'une œuvre qui sera revendue 1 an plus tard, déjà à cette époque bien plus chère en France. Vous dites, je m'oppose à la question, vous dites en substance que l'idée de restitution ne vous intéresse pas beaucoup, que c'est l'idée de la circulation. Or, on n'a pas tellement l'impression que ces deux idées s'opposent. Pourquoi est-ce que ce rapport-là précisément vous a paru problématique ?
Ce qui m'intéresse, c'est l'idée du partage. Je pense que ce dont le président a parlé à Ouagadougou, c'est qu'effectivement, on est devant un phénomène incontestable. Il se construit à peu près 200 musées par an, essentiellement en Asie, un peu beaucoup moins en Afrique, mais ça commence. Et une très grande partie du stock, pour diverses raisons,
est en Occident.
Et donc, ça ne peut pas rester ici. Je veux dire, on est dans une situation qui, mutatis mutandis, rappelle un petit peu celle de l'ordre des banques centrales à la fin de la guerre de 14. Tout était aux États-Unis. Il faut faire recirculer ce patrimoine pour réinitialiser en quelque sorte le monde des musées. Par contre, je me suis effectivement opposé à ce rapport parce que le rapport mélange quelque chose qui pour moi relève d'une extension de la politique culturelle avec un problème mémoriel. Le rapport a été écrit par des gens qui ne sont d'abord pas des gens de musée.
Mais qui revendiquent d'avoir rencontré près de 150 personnes, dont vous évidemment.
Dont moi évidemment. Et très peu d'autres directeurs de musées, en particulier en Afrique, les conservateurs de musées africains sont sentis très, très tenus à l'écart d'un débat qui a d'abord été un débat entre intellectuels, universitaires africains. C'est pas tout à fait le même univers.
Qu'est-ce qu'il faut faire, donc, si on veut avancer dans cette direction?
Il faut d'abord construire quelque chose de rationnel et non pas quelque chose qui se base sur
de l'émotion,
la punition du fait colonial. Je veux dire, on est tous d'accord sur le fait que la colonisation a été quelque chose de triste et que les musées ne peuvent pas être les otages, en quelque sorte, d'une éternelle repentance. D'un autre côté, le musée n'est d'abord pas la seule forme de circulation culturelle et la seule forme de contact, et encore moins une forme d'ailleurs relativement peu adaptée, à mon avis, à des questions symboliques, parce que
Mais d'ailleurs, il est prévu, et dans le rapport, et par ailleurs chez certains des gouvernements, dont notamment le Bénin, parce que c'est le royaume du Dahomey, où il y a beaucoup d'objets qui ont été très, très importants, qui font l'objet d'un litige, qui disent que ces objets peuvent être rendus à leur propriétaire donc légitime, une fois qu'on les a identifiés, pas nécessairement parfois pour arriver dans des musées, mais pour aller dans des lieux où ils peuvent exister, dans une sociabilité locale, qui peuvent être des lieux de partage, des lieux...
Moi, c'est un grand rêve. Effectivement, le rapport dit en substance tout ce qui a été acquis pendant la période coloniale, c'est-à-dire entre le Congrès de Berlin et les indépendances, a été potentiellement mal acquis. Il faudra que...
Ah non, le rapport ne dit pas ça pour le coup.
Si. Il faudra que la partie adverse prouve que ce qu'elle a acquis a été bien acquis. Donc, l'ensemble de ce...
Vous savez que Carla Bruni avait dit ça pour les noces de Cana, au Louvre de Véronèse, qui devaient être rendues parce qu'elles avaient été effectivement confisquées en 1797. Et puis quelqu'un a découvert qu'en fait, on savait que ça avait été acheter et échanger par la suite, parce qu'on ne pouvait pas les ramener à un autre tableau, etc.
Non, mais tout ça, c'est la question de débat.
Pour le coup, l'un des auteurs du rapport, Védine Savoie, est une très grande spécialiste de cette période, de ce qui s'est passé pendant les guerres napoléoniennes, où il y a eu effectivement toute une série de règlements et de conventions internationales. Les noces de Cana, ça a été réglé par le traité de Vienne.
Donc c'est 1815, après, ça fait l'objet
d'un accord international. Non, moi, ce que je dis, c'est que il faut qu'il y ait davantage de musées, il faut qu'il y ait des solutions culturelles. Je suis contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, pas du tout opposé à des restitutions au sens de transfert de propriété. Mmh. Et ce que je veux, c'est du partage, c'est-à-dire pas quelque chose qui relève de la repentance, quelque chose qui relève de l'avenir, du futur, c'est-à-dire permettre à nos partenaires africains, le président a parfaitement raison quand il dit qu'il est triste, regrettable, honteux que les jeunes Africains doivent venir en Europe pour voir leur patrimoine. Alors, heureusement, c'est en train de changer, essentiellement par des initiatives privées, mais aussi par des initiatives publiques. Il vient d'ouvrir un très beau musée à Dakar.
Mais effectivement, on peut dire aujourd'hui, la plupart des musées importants en Afrique sont toujours, pour le moment, en Afrique du Sud, et beaucoup, pour certains, sont des initiatives privées. C'est d'ailleurs très frappant quand on voit et les prêts qui vous sont faits, et ceux qui peuvent être faits, par exemple, à la Fondation Cartier. Quand on regarde la liste des prêteurs, c'est quasiment jamais en Afrique.
Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que tout ça est, à mon avis, un des grands enjeux de la politique culturelle des 10 prochaines années pour la France. Il faut faire attention de ne pas se faire doubler par les Chinois, qui justement, eux, ont compris que c'était un élément important de soft power. C'est intéressant de voir comme les Chinois, même vis-à-vis de l'ICOM, sont en train de prendre des initiatives, l'ICOM étant l'organisme qui coordonne en quelque sorte les musées au plan international. Donc je pense que c'est un sujet passionnant, important, compliqué, qui met en place des enjeux financiers. L'idée de dire que les objets vont retourner à une espèce de vie antérieure. Un musée, c'est un drôle d'endroit.
Mais c'est pas tellement une vie antérieure dont on parle justement, c'est plutôt une vie future. Je parle pas nécessairement
des musées. Je pense qu'il est très compliqué. Peut-être que on peut ne pas être d'accord. On a même tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Je pense qu'il est très compliqué pour un objet qui est entré dans une collection de musées de ne pas aller ailleurs que dans une collection de musées, mais pas forcément le musée où il est. Donc je crois au musée.
Et puis il peut tourner, il peut circuler,
C'est ce que dit et répète le ministre de la culture, Franck Riester, et je crois qu'il a parfaitement raison.
Alors, juste un mot pour dire, l'Open Society, quand même, au dernier forum pour la paix de Paris, dont on s'est largement
fait
écho, l'Open Society, donc la fondation de George Soros, qui justement a voulu, entre guillemets, répondre à ceux qui s'opposeraient notamment aux conditions aujourd'hui de réception de telles œuvres dans des musées africains, où on dit que finalement les conservateurs ou les musées n'ont pas les moyens de sécurité ou de niveau de formation suffisant. L'Open Society a donc débloqué 13 millions d'euros sur les 4 années qui viennent, qu'elle croira justement, donc un petit peu en Asie, mais principalement en Afrique, à des musées, à des associations pour la formation et des conservateurs et des archivistes, justement, pour répondre à
ces critiques. Stéphane Martin, une bonne chose.
Peut-être que ce soit la fondation de George Soros,
ça me pose aucun problème, et au contraire, on en rêve. Enfin, je veux dire, ce que le ministère en ce moment, et son ministre, travaille avec le musée Picasso, on travaille à un projet d'exposition Picasso et l'Afrique à Dakar, on essaye de réunir des fonds pour monter cette exposition. Donc, je ne connais pas un seul conservateur de musée qui n'ait pas envie de partager. C'est vraiment une idée complètement fausse que d'imaginer les conservateurs comme Fafner sur son tas d'or.
Stéphane Martin est président du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Est notre invité ce soir. On laissera Emmanuel Hogue lui poser une question peut-être dans un instant. Mais comment est-ce que vous avez vu finalement depuis tant d'années, 20 et quelques années à la tête du musée du Quai Branly, comment vous avez vu les missions au fond, et c'est le sujet dont on vient de parler d'ailleurs, pour une part, évoluer, les missions des musées évoluer depuis 21 ans?
Effectivement, il y a 30 ans, je crois, personne ne croyait aux musées. On avait l'impression que c'était des institutions du passé, parce qu'elles étaient, sans voix, silencieuses, et qu'elles allaient disparaître devant la suprématie de l'image. On s'aperçoit en réalité que le rapport singulier que l'on peut avoir avec un objet ou une œuvre, un tableau, mais aussi un objet symbolique, la robe d'un artiste, le souvenir d'une guerre, c'est quelque chose qui est irremplaçable, le rapport avec l'authentique. On emmène, nous, par exemple, au Quai Branly, des objets, des collections dans des régions de France ou de la périphérie parisienne où il n'y a pas de musée. Cette rencontre avec l'objet montre qu'aujourd'hui le statut de l'image est devenu, l'image s'est tellement banalisée que la rencontre avec l'objet lui-même est quelque chose qui est ineffable et qui est irremplaçable. Donc bizarrement, depuis une vingtaine d'années, il y a un désir de musée. Dans certains cas, ça peut poser des problèmes au Louvre, par exemple, avec des
trop de désir de musée,
de fréquentation. Et aujourd'hui, le musée est devenu un outil privilégié de réparation de la fracture sociale, un outil de la politique de la ville, un outil de lien social. C'est compliqué parce que...
Qu'est-ce qu'elle attend, la société de musée ?
Elle en attend souvent une forme de vérité. Elle attend que le musée lui dise ce qu'elle...
Comment représenter le monde,
finalement ? Non, je crois que ça, je crois que c'est une attente d'il y a 20 ans. Je crois qu'aujourd'hui, la société attend du musée un rapport plus intime, un rapport avec sa propre conception du monde. Et c'est là où c'est difficile, parce qu'un musée est nécessairement un lieu subjectif. C'est pour ça que, par exemple, je vais pas vanter ce qu'on a fait au Quai Branly, mais quand même.
Un peu.
Bah, si. Vous avez clairement changé vos
Quai Branly, je crois, le seul musée qui a une collection très très importante et qui consacre autant d'espace aux expositions temporaires. Quand on est un conservateur, on a envie de déployer sa collection. 50% des espaces du Quai Branly, ce sont des espaces d'expositions temporaires. Des expositions temporaires, donc, ça veut dire des points de vue. Des points de vue d'auteurs, des commissaires, donc des points de vue variés. Et cette forme de relativité du discours, elle permet de complexifier ce qu'on a à dire. Et je pense que c'est une des clés du succès du musée, parce que on y va, on y revient. C'est encore une fois ce qu'a inventé aussi le Centre Pompidou. C'est vraiment la matrice initiale, c'est-à-dire d'utiliser un musée comme on utilise une bibliothèque, on utilise une salle.
Et d'ailleurs,
de
concert. Il y a une librairie, il y a un parc, il y a des restaurants. Voilà. Est-ce qu'il faut une garderie, par exemple ? Je vous pose la question parce que je crois que vous avez été impressionné par une initiative de ce type, je crois, en Australie.
Non, c'est un autre sujet dont je vous ai parlé quand on a déjeuné ensemble.
Pour préparer cette émission, ouais.
C'est que les musées coûtent cher et que j'ai été frappé de voir, par exemple, en Australie, un musée municipal qui était en quelque sorte détourné de sa fonction initiale pour une autre mission sociale ô combien importante, mais parce qu'on lui demandait de remplir une autre mission que celle du rapport avec les œuvres, pour le même prix,
d'ouvrir une garderie.
Et donc d'être un lieu effectivement, d'accueil des familles, des enfants, etc.
Mais vous, en l'occurrence, vous faites partie des musées en France qui accueillaient le plus de scolaires, d'ailleurs, beaucoup. Et par ailleurs, effectivement, vous parliez des expositions.
On essaie de faire autre chose avec les enfants que simplement de les garder.
Vous, c'est vrai qu'en même temps, on peut peut-être parler de la fréquentation de ce musée, qui n'a pas arrêté, qui est entre 1 200 000 et 1 400 000, qui a monté en 2018 alors qu'elle avait baissé avant. Il y a eu des maximums en 2008, en 2014.
Modo, oui, la fréquentation reste entre 1 million 2 et 1 400 000.
Ouais. Donc avec une année ou quelques-unes. Alors visiblement, là, il y a eu un énorme afflux de gens après la mort de Jacques Chirac, paraît-il.
Oui, ça c'est une autre. Ça a été un moment effectivement émouvant, parce qu'effectivement le public.
Vous avez laissé le musée ouvert.
Le musée était gratuitement pendant 10 jours, et c'était assez touchant de voir à quel point les visiteurs identifient ce musée à la personne de Jacques Chirac. Donc sont venus des gens qui n'allaient pas au musée, au musée même, pour le musée lui-même.
C'est ce qui restera de lui, selon vous, parmi d'autres choses, mais notamment.
Il restera d'autres choses aussi.
Mais aussi ça.
De Jacques Chirac, mais c'est une initiative tellement étonnante, tellement unique. 16 ans ou 17 ans après son ouverture, il n'y a pas encore l'équivalent du Quai Branly. Il y a un grand projet qui va ouvrir à Berlin l'année prochaine, mais qui est très différent et peut-être plus classique que n'est le Quai Branly.
Mais vous, d'ailleurs, justement, je pose juste cette question-là parce que vous avez beaucoup évolué dans votre politique, notamment des expositions temporaires. Parmi les plus grands succès qu'il y a eu, il y a eu Tateur Tatoué qui était sur l'art du tatouage, il y a eu une exposition sur les cheveux qui a eu un succès assez fou. Et cette fameuse question, vous disiez tout à l'heure qu'art premier, c'était une invention. C'est vrai que c'est un mot qui n'existe pas en anglais. Aujourd'hui, on parle d'art brut, d'art naïf. Vous avez autant effectivement des arts dits premiers, donc des très vieilles sculptures, que des artistes d'art brut. Comment vous naviguez entre tout ça?
Effectivement, on a essayé d'avoir une politique éditoriale. C'est l'exposition sur le tatouage, par exemple, c'est une des premières expositions du musée. L'idée était de parler de tout ce qui, d'abord, parle de la nouvelle mondialisation, c'est-à-dire du partage entre les cultures, les musiques dont vous parliez au début de l'émission, elles se nourrissent des musiques du monde. Pour des artistes de la génération de Björk, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant d'écouter des chants inuits que d'écouter, de faire du solfège ou même d'écouter Mozart. Donc il y a un rapport aujourd'hui à l'autre qui nourrit la culture, et puis depuis quelques années, avec la préoccupation de plus en plus forte du devenir de la planète, une attention à la manière dont la planète est habitée, aux solutions que...
On n'aurait pas dû créer un musée de l'environnement, je ne sais pas, au hasard, entre le musée de la marine et de l'homme, en les rejoignant ou...
Ouais, en tout cas, c'est un vrai sujet, effectivement. Aujourd'hui, je pense que, puisque j'ai l'air obsédé par le Centre Pompidou, la grande question du Centre Pompidou, c'était qu'est-ce que la modernité ? Je crois qu'aujourd'hui, la grande question de notre époque, c'est comment mieux habiter cette planète, comment mieux préserver et mieux comprendre les solutions pour trouver pour sauvegarder la planète. Et ça passe effectivement par des questions culturelles qui sont traitées au Quai Branly, mais aussi par des questions scientifiques qui peuvent être traitées dans d'autres musées.
Une question d'émanuologue, entraînarque. Allez, hop, question, on y va.
Il est méchant.
Mais une question curieuse, c'est sur le déploiement des œuvres musicales à l'intérieur du musée. Il y a cette magnifique colonne où on voit des instruments de musique qu'on voudrait entendre.
Est-ce qu'il y a des
projets ou des idées?
Non, c'est pas un déploiement.
Je vous laisse passer un contrat avec Radio Nova, peut-être, et les Inrock.
En fait,
Mais France Culture sera candidate aussi.
Il faut savoir que sous le musée, il y a 6000 m² de réserve. Il y a 300 000 objets que l'on ne voit pas. Et donc, une des choses que nous avons demandé à Jean Nouvel, l'architecte, c'est d'avoir une réserve qui soit visible de manière à donner aux visiteurs le sentiment de la profondeur de cette collection. Donc il a imaginé cette grande colonne tubulaire qui traverse la totalité du musée, et justement on n'y déploie pas, on y entasse, si j'ose dire, on y entasse avec soin et avec dans l'espoir de les conserver pour toujours, la collection d'instruments de musique. Mais la musique est très présente au musée du Quai Branly. Si vous allez voir l'exposition qui se tient en ce moment sur 20 ans d'acquisition, vous verrez par exemple qu'il y a une section sur les acquisitions dans le domaine de la musique, sur les enregistrements, sur ce que nous faisons dans le domaine du son, et nous organisons des concerts, et on va en faire, j'espère, avec Radio Nova et avec d'autres
et France Culture. Il a été président d'honneur de l'association des amis du musée du Quai Branly, je pense bien sûr à Claude Lévi-Strauss. Ce fut une belle rencontre pour vous?
Ah oui, c'était un homme merveilleux. Enfin, je dis, c'est des banalités.
Généreux aussi. Ouais.
Quelqu'un d'extrêmement, tellement bien élevé, et que le contact avec lui était, on avait l'impression de revenir dans un temps passé. Il croyait à la transformation de la présentation des collections. C'est-à-dire qu'il avait une vision très moderne, finalement, du musée. La collection, elle, est éternelle, mais la manière dont on en parle et la manière dont le musée se déploie nécessairement se démode, nécessairement nécessite des modifications. Et contrairement à beaucoup de ses pairs du Musée de l'Homme qui étaient très inquiets, lui, au contraire, était très excité par ce que nous allions faire avec Jean Nouvel.
Stéphane Martin est président du musée du Quai Branly. C'est votre dernier mandat. Dans quelques jours, vous allez faire quoi après?
Ah, c'est une bonne question.
Vous pouvez retourner à la Cour des comptes. Je crois que vous êtes
retourné à la Cour des comptes.
Pour terminer sur les énarques, voilà.
Les énarques ont ce privilège. Donc je peux retourner dans la maison mère. Et puis
ils n'ont pas été très gentils. Ils auraient pu vous garder encore 5-6 mois, non?
Pourquoi dites-vous ça?
Comme ça.
Je ne pouvais pas, non, puisque mon mandat se terminait, ne pouvait pas juridiquement être renouvelé. Mais je suis pas encore un grand vieillard, donc j'espère avoir devant moi une autre vie.
Projet de voyage, d'écriture. Vous êtes un passionné de Thaïlande, d'Asie.
J'aime voyager, mais j'ai pas vraiment de projet d'écriture et j'aimerais bien encore continuer de servir le service public quelques années.
Puis vous pouvez lire aussi on connaît votre spécialité, des romans fin du 19e.
Ah, vous savez tout.
Merci infiniment d'avoir été notre invité Stéphane Martin ce soir. Merci Emmanuel Hogue.
Merci à vous.
Pour avoir été avec nous ce soir. Pour aller plus loin sur les sujets dont on a parlé ce soir, les références, articles et livres sont à retrouver, ainsi que les musiques d'ailleurs qu'on a diffusées et bien d'autres informations sur le site de France Culture, Mission Soft Power. Vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission sur notre site France Culture ou sur iTunes ou encore sur l'application de votre smartphone Soft Power. La semaine prochaine en Soft Power, nous consacrerons notre émission un peu exotique avant les fêtes à l'Égypte d'une part, notamment à la question des médias en Égypte, ainsi qu'au Centre Pompidou à Shanghai d'autre part, et je recevrai Serge Lavigne, le patron de Beaubourg, dont vous avez quasiment fait l'introduction et la publicité au long de cette émission. On aurait pu vous donner de diriger Beaubourg.
Non, Serge Lavigne fait ça très bien, c'est un grand
vous êtes pas
un grand président de Beaubourg
pour quelques mois. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier, et j'ai encore le temps de vous signaler que Pierre Rosanvallon sera l'invité des matins de France Culture, donc à ne pas rater demain matin. Merci Zoé Fez.
Merci Frédéric, merci à tous.
Encore une fois, merci Stéphane Martin et bonne fin de mandat.
Merci beaucoup.
À la tête de ce musée qu'on aime où on aime se rendre régulièrement. Bonne soirée à tous, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.